Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui au studio, nous sommes avec Jean-Baptiste Sugier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici en tant que coordinateur donc, du Centre Imaginaire, qui est basé où ?
On est sur Chabeuil, le siège social, et on est une équipe qui se balade entre le Rhône et la Drôme, on va dire.
Et particulièrement, vous êtes ici pour donc nous parler du musée itinérant de Germaine.
Oui, tout à fait.
Alors, le musée itinérant de Germaine, ce titre nous induit à une tournée dans la région. Et est-ce qu'il y aura quelques abords dans le Diois ?
Alors, côté date, le musée itinérant là était à Dijon il n'y a pas très longtemps pour la journée de la femme. Et on l'a installé vendredi dernier. À Livron, à la médiathèque Louise Michel, où il sera du 10 au 21 mars, donc sur les heures d'ouverture de la médiathèque. Et le 21 mars, il y aura une journée un peu particulière, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler après. Et dans la Drôme, ensuite, on sera aussi au festival Rencontre entre les mondes à Chabeuil, sous un format un petit peu différent, puisque c'est un projet qui a plusieurs facettes. Et ça, c'est 13-14 avril à Chabeuil.
On va présenter ce qu'est le musée itinérant de Germaine. C'est un spectacle, c'est une œuvre d'art. Comment peut-on définir cet événement ?
Aujourd'hui, c'est un peu tout ça. C'est un peu un spectacle, c'est certainement une œuvre. Mais l'histoire a d'abord commencé avec des rencontres en fait, avec des femmes âgées qu'ont fait Christina Firmino, une réalisatrice de documentaires sonores. Et Clémentine Cadoret, qui est une constructrice, scénographe, peintre de Lyon. Et à elles deux, elles ont rencontré deux femmes, qui étaient Jamie Walker et Noël Merle, deux femmes âgées. Et elles avaient cherché à les rencontrer, à les enregistrer et à transmettre leur histoire. Et la première étape de ces rencontres, ça se passait au festival des rendez-vous marionnettes qu'on organisait à Lyon. Et donc, c'était pour expliquer... une marionnette portée qui représentait une vieille femme qui s'appelait Germaine, qui allait à la rencontre de spectateurs pour leur mettre un casque sur leurs oreilles, pour leur faire entendre les histoires de ces femmes-là. Ça, c'est l'origine du projet. Et quand c'est revu à l'issue de cette action, on avait aimé ce qui s'était passé là, on avait trouvé ça émouvant, et du coup on a décidé de faire collection, c'était il y a 3 ans. Et donc pour faire collection, on a pensé à ce musée itinérant de Germaine. Et donc du coup, on a abandonné l'idée de la marionnette, du casque, etc. pour penser les choses comme un musée avec des grands panneaux où chaque panneau de 2 mètres de haut, la taille d'une porte à peu près, montrerait les petits intérieurs des dames qu'on a rencontrées. Donc il y a une scénographie comme ça qui fait qu'on rentre chez les gens. Il y a leurs objets, leurs tapisseries, leurs éléments de décor. Et on s'assoit. C'est une invitation à s'asseoir, à regarder la photo qui représente ces femmes qui est accrochée sur le tableau, à mettre un casque sur ses oreilles et à les entendre nous parler. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a 12 portraits. Et donc, ça a été 2 ans de construction, puisque c'est assez long pour le temps passé avec chaque personne, le temps du projet, 2 ans. Et derrière ça, il y a le côté théâtre, spectacle, qui est arrivé. C'est-à-dire, il y a 2 volets. Il y a l'entresort. L'entresort, c'est il y a ce musée qui existe, 12 portraits qui peuvent être montés de manière différente, etc. Et il y a 2 guichetiers qui vous accueillent, qui vous donnent un ticket, qui ont un bon mot pour qu'on rentre dans de bonnes conditions dans ce musée, c'est-à-dire prendre le temps, etc. Et si on a de la chance, ce jour-là, il y aura aussi le gardien du musée qui sera là. Le gardien du musée, c'est Pierre Daudet, qui est un auteur et comédien de la Drôme. Et qui du coup a écrit un texte et qui joue donc un solo de théâtre qui dure 1/2 heure et qu'on propose de temps en temps.
Voilà. Ce travail, vous l'avez construit avec l'aide de personnes interviewées ou prises sur leur quotidien. Comment se passaient ces prises de son ?
Ça, c'est le travail donc de Christina Firmino, qui est spécialisée, on va dire, là-dedans. J'aurais du mal à en parler précisément à sa place, mais je peux dire les étapes, en fait. La première étape, c'est d'abord de se rencontrer. Déjà, d'avoir l'opportunité d'une rencontre. Donc, il fallait, au-delà de notre réseau proche, qu'on ait des partenaires qui puissent nous indiquer quelles femmes pourraient, selon eux, être partants. Et pour faire ça, on a travaillé avec les petits frères des pauvres, qui nous ont présenté des femmes. Donc, la moitié des femmes qui sont présentes dans le musée étaient en lien avec l'association des petits frères des pauvres. Et donc, avec toutes celles qu'on avait contactées par téléphone, on allait chez elles une première fois pour les rencontrer, leur expliquer le projet et être sûr qu'elles le comprenaient bien et qu'elles en acceptaient les aboutissants, quoi. C'est-à-dire que d'autres personnes allaient entendre ensuite les histoires qu'elles allaient nous confier. Donc ça, c'était vraiment important que ce soit très clair. Et une fois que ça c'était fait, c'était mûri, et si elles étaient d'accord, il y avait une deuxième rencontre où là, du coup, il y avait l'interview avec le micro, la perche, etc. Et elles venaient à deux. C'est une rencontre entre deux générations de femmes, quoi. Clémentine, Christina et ces femmes qu'on a rencontrées. Ensuite, il y avait une troisième rencontre. C'est un photographe du collectif ITEM à Lyon qui venait, qui se déplaçait, qui prenait un beau portrait d'elle. Et on va dire un quatrième temps pour faire schématique, où une fois l'interview montée, parce qu'il y a une mise en son, il y a une création sonore qui est faite, on allait leur faire écouter pour qu'elles valident que ce récit-là leur appartient bien, qu'ils respectent ce qu'elles souhaitaient dire, et donc à ce moment-là, elles donnaient leur accord pour que ce soit diffusé comme on leur avait dit.
Qu'est-ce qui vous a séduit ou capté dans ce travail au point de le montrer, de vouloir le montrer, le présenter ?
C'est assez touchant de voir les effets que ça produit en fait sur différentes générations de gens avec qui on a pu tester un peu cette rencontre en fait entre des histoires intimes et à un moment donné des gens qui écoutent. Il y avait un intérêt évident, quoi, puisque du coup, on a tous un lien avec une grand-mère, on a tous une grand-mère, qu'on l'ait connue ou pas d'ailleurs, fantasmée ou avec qui on a partagé beaucoup de choses. Mais parfois, même avec notre propre grand-mère, cette intimité, on ne l'a pas eue parce qu'il n'y a pas eu les conditions de créer. Et puis, on est en même temps dans une société où le lien avec les personnes âgées, ce n'est pas une chimère, il est coupé dans le sens où il n'y a pas beaucoup d'espace public où on se rencontre et où on a l'occasion d'échanger autant avec cette génération-là. Il y avait aussi la dimension féministe du projet, d'insister sur la parole des femmes dans un monde patriarcal à différents endroits. Voilà. Donc c'est un certain nombre de choses qui nous ont motivés à imaginer ce média un peu du musée itinérant de Germaine qui est en fait une curiosité. On l'a pensé comme ça, c'est-à-dire rendre curieux par l'objet d'art, parce que vraiment c'est intriguant comme objet. On a envie de s'approcher, on a envie de mettre le casque, on a envie d'appuyer sur les boutons, il y a un côté ludique. Et une fois qu'on est tombé dans les histoires, ben on est touché. Alors que peut-être naturellement on n'y serait pas allé. Là d'un coup ça prend. Donc voilà, c'est ça.
Les objets qui sont présentés donc sur ces murs viennent de ces personnes ou alors c'est une reconstitution artistique ?
C'est une reconstitution à 90%. C'est inspiré de leurs habitats. Parfois c'est un détail ou parfois c'est vraiment plus abstrait. Il y a certains éléments qui ont été une co-construction avec elles. Par exemple, je pense au portrait d'Eliane Reboisson où on voit une photo sur sa petite table et du coup c'est la photo de sa mère dont elle parle dans le casque et il y a une partie du coup de sa vie dans une petite boîte. Il y a un texte, c'est un texte qu'elle a écrit de sa main qu'on a photocopié, recopié, que le public peut lire. Donc je dirais qu'il y a un peu les deux, mais évidemment c'est pas des objets qu'on leur a empruntés parce que c'est une exposition qui a amené à tourner, à bouger, et par respect on a plutôt chiné. Clémentine Cadoret a plutôt chiné les objets, quoi.
Est-ce qu'on peut associer cet événement qui se serait inspiré du ready-made de Marcel Duchamp avec ses objets?
Alors j'avais déjà entendu ça. Après, moi, j'ai pas forcément le recul pour positionner ce qu'on a fait dans le champ de l'art contemporain. Le ready-made, moi, quand j'y pense, ben, je vois des toilettes. Alors sûrement qu'on est sur du quotidien, peut-être à ce niveau-là. On est dans le récit du réel, on est dans le quotidien. On en fait un musée. Alors du coup, c'est vrai qu'en fait, c'est un terme assez fort de déplacer l'objet musée dans la rue et de se l'approprier. En tout cas, nous, on est contents de le faire, ouais. D'utiliser cet imaginaire-là du musée et de dire, voilà, ces histoires qui pourraient paraître banales et quotidiennes, elles sont extraordinaires et c'est des œuvres d'art.
Et on va peut-être revenir sur Pierre Daudet, donc, qui a écrit et qui interprétera un texte qui s'intitulera d'ailleurs.
Aujourd'hui, ça s'appelle le 13e portrait. C'est un peu le prolongement théâtral du musée itinérant de Germaine. C'est une commande d'écriture qui est venue sur la bonne idée de Séverine Gervie de la médiathèque départementale de la Drôme, avec qui on a travaillé là récemment. C'était une belle occasion du coup d'avoir un aspect plus vivant, plus théâtral sur le musée, lui donner cette dimension-là un peu de contact humain.
Ces dames qui ont été captées chez elles seront présentes ?
Oui, donc là par rapport au fait qu'elles soient présentes ou non, il faut savoir que si on est à chaque fois allé chez elles, c'est aussi parce que la plupart d'entre elles n'ont pas forcément la capacité de se déplacer. Et c'est d'ailleurs pour ça parfois qu'elles sont en lien avec encore cet asso, les petits frères des pauvres, qui fait un boulot hallucinant. Ils ont une armée de bénévoles qui partout en France va là où personne ne va, c'est-à-dire voir des personnes qui n'ont plus de lien. Donc j'en remets une couche parce que c'est vraiment du beau boulot. Et si ça peut donner envie à des gens de le faire, bah franchement, allez-y, quoi, je pense que c'est riche. Donc voilà, première chose, où on les a rencontrés, la majeure partie dans le Rhône, dans différents quartiers de Lyon et des alentours de Lyon, de la banlieue lyonnaise, et dans la Drôme aussi, pour une partie d'entre elles, en lien avec l'agglomération de Valence-Roman aussi, qui nous avait soutenus sur ce projet-là. Donc du coup, on était dans un partenariat comme ça. Ensuite, est-ce qu'elles sont présentes ou pas? Je crois y avoir un peu répondu. On les a invitées, on a fait en sorte qu'elles puissent se déplacer sur des temps un peu d'exposition qu'on avait mené jusqu'ici. Je crois qu'on a offert cette possibilité à toutes et je crois que toutes n'ont pas pu se déplacer, mais la majeure partie, oui.
Mis à part peut-être une démarche féministe, pourquoi uniquement des femmes sont présentées? Est-ce que les hommes se prêtent moins à ce jeu?
Je crois pas. Je pense que le contenu des interviews aurait été différent. Certainement qu'on n'aurait pas abordé les mêmes questions avec un public que d'hommes, alors qu'ici on est qu'avec des femmes. On aurait peut-être... Je sais pas, c'est des préjugés ça, donc après c'est des questions qu'il faudrait se poser un peu plus, avec un peu plus de temps, mais peut-être qu'on aurait abordé plus par le travail, on l'a fait aussi avec les femmes, mais c'est dans le mode de contact, dans comment on rentre dans l'intime avec des hommes, je pense que ça aurait été abordé différemment. Après pourquoi on a fait le choix des femmes, parce que c'est important de le faire. C'est presque une évidence que c'est un boulot à mener, je pense, de donner cette parole à des femmes qui ont vécu sur le siècle qui vient de se passer, ce qu'on appelle l'émancipation, et qu'il faut se rendre compte de là d'où on vient, dans quel imaginaire elles étaient quand elles avaient 20 ans, et où on est aujourd'hui, et le travail qui reste à mener. Donc on était intéressés par ces questions-là.
Et est-ce que vous avez eu des réponses sur ces questions-là? Et comment ont-elles vu l'évolution des conditions de la femme durant leur vie?
C'est vraiment entre les lignes qu'on peut répondre à cette question-là. Moi, je pense qu'il y a à peu près 4 heures d'interview. Donc, on peut aller au musée itinérant de Germaine et écouter 3 minutes ou 4 heures. En fonction de chacune d'elles, les réponses sont différentes. Parce qu'elles sont exilées, parce qu'elles sont migrantes, parce qu'elles sont plus ou moins fortunées, parce qu'elles ont fait une rencontre à un moment donné. Nous, on les a questionnées sur Et le travail, c'était quoi votre relation avec le travail? C'était quoi votre, c'est quoi l'amour pour vous? Comment ça se passait la sexualité? Il y a des choses qui ont été abordées qui sont très intimes. Les réponses données sont toutes différentes, mais elles nous donnent entre les lignes une image de ce que ça pouvait être l'imaginaire d'une femme il y a 60 ans, par exemple. Et c'est cet apprentissage-là qui nous est fait entre les lignes qui est intéressant. Moi, je pense que l'interprétation, elle est personnelle. Donc, à chacun, après, d'entendre ça et de ressortir avec, j'espère, une meilleure image de ce que ces femmes-là ont vécu.
On ne peut pas considérer ces témoignages comme des éléments de statistiques. Voilà, on peut dire.
Non, ce n'est pas un projet sociologique. On a eu la volonté de rencontrer des femmes avec des existences contrastées parce que on voulait plusieurs couleurs dans ce musée. Donc, on a poussé dans cette direction-là. Mais il n'y a aucune statistique à ressortir de ce projet.
Maintenant, on va passer au centre imaginaire, un lieu qui existe depuis combien de temps?
Est-ce que le centre imaginaire existe? C'est une bonne question. Vraiment, en tant que lieu, je ne sais pas. En tout cas, ça existe depuis 2012, la création de la structure. Et c'est une nouvelle un peu particulière que je vais donner là, c'est l'occasion à la radio, parce que jusqu'ici, notre identité s'était forgée sur un festival qui s'appelait Les Rendez-vous Marionnettes, jusqu'à vendredi dernier, puisque là, vendredi, j'ai appris que la subvention qu'on avait de la ville de Lyon jusqu'ici allait nous être révoquée, quoi, supprimée en quelque sorte, que le choix politique n'allait plus vers nous. Et donc, de but en blanc, c'est la fin du coup de cet événement-là qui avait pas mal consolidé aussi une partie de ce qu'on fait, c'est-à-dire organiser des événements. Donc nous, maintenant, on va aller moins sur Lyon. Moi, je vis dans la Drôme, une partie de l'équipe est dromoise. Et je vais me concentrer, je crois, sur le musée itinérant de Germaine, sur les nouvelles créations de la compagnie et sur la naissance là, d'un événement, les Rencontres itinérantes, qui est un micro-festival rural qui naît là sur les contreforts du Vercors, donc Combeauvin, Chabeuil, Château Double, Perru. Donc en octobre prochain, on monte ça là.
Vous ferez le tour du Vercors dans les mois à venir?
Oui, il faut me donner des adresses.
Ah, vous cherchez des lieux donc?
Oui, nous on est extrêmement motivés là, après avoir monté ce projet pendant 2 ans, à le faire tourner pendant des années encore. Donc on est là-dessus, quoi, on travaille là-dessus, on cherche des dates un peu comme chaque compagnie fait, et du coup on se motive pour ça.
Donc le musée itinérant est comme son nom l'indique, sans lieu fixe.
Il est sans lieu fixe, il est amené à voyager. C'est une invitation, quoi. C'est l'envie, du coup, de faire circuler ces histoires. Et on l'a pensé physiquement comme quelque chose de modulable et d'adaptable. On voulait que ce soit possible de le rencontrer dans la rue, dans des salles. On voulait pouvoir l'adapter à différents espaces. Donc on peut mettre les 12 portes, qui sont les 12 portraits, tiennent ensemble comme des portes avec des gonds. Et on peut faire un seul carrousel de 12 portraits ou le diviser en 2, en 3, en 4. On teste tout ça.
Vous-même, vous êtes issu du spectacle ou alors vous êtes plutôt dans la gestion?
Moi, j'ai une formation dans la gestion, mais qui est une formation de gestion qui était liée un peu à la fac de lettres. C'était anthropologie, métier des arts et de la culture. Donc ça, c'est... Après, moi, j'ai fait un parcours universitaire un peu Montpellier, Avignon, Lyon. Après, c'est dans la pratique pas mal d'activités associatives, quoi, que je me suis formé. J'ai pas mal bossé avec une équipe qui a fait un peu son trou à un moment donné aussi dans le coin, dans le Diwa, avec Beluga et compagnie. Moi, j'ai bossé 3 ans avec cette structure-là avant de travailler avec le Centre Imaginaire. Et avant, j'ai bossé dans le théâtre, pas mal. Personnellement, j'ai une pratique du clown, début de création de numéros, mais qui est sur quelque chose de plus à côté, quoi. C'est vrai que moi, je suis surtout sur la production.
Ouais. Est-ce qu'on avait, vous étiez revenu hein, sur le 21 mars, mais est-ce qu'on peut aller plus en profondeur? Donc,
C'est une exposition, on a les 12 portraits qui sont installés dans le hall de la médiathèque, donc du 10 au 21 mars, donc c'est dès maintenant. Et le 21 mars, c'est une journée spéciale, du coup, avec une ouverture sur toute la journée, de 10h, je crois, jusqu'à 17h, où deux guichetiers du musée itinérant de Germaine vous accueillent pour vous faire la visite. Et vous aurez l'occasion de rencontrer le gardien du musée, donc qui est un solo théâtral qui s'appelle le 13e portrait, qui jouera à 11h et 15h.
La ville de Livron, à mon sens, je trouve qu'elle développe pas mal d'événements culturels. Est-ce que c'est un bon point pour vous par rapport à l'organisation justement de ce qui est proposé dans la Drôme, hein, qui se raréfie en même temps de plus en plus ?
C'est un peu dans l'air du temps, la raréfication des propositions culturelles. Moi je m'en rends compte du coup avec la suppression là, du festival qui est liée à une baisse des dotations de l'État, donc toutes les collectivités publiques ont moins de financement et du coup ça a des conséquences directes et depuis plusieurs années mais de plus en plus sur la création, les propositions culturelles, donc qui est une mairie et des équipes qui se bougent pour monter des projets qui leur paraissent sensés, oui, c'est forcément positif et nous on accueille ça avec plaisir. D'autant que chaque moment joué pour nous est l'occasion de nous montrer et d'espérer du coup convaincre d'autres personnes encore de nous faire jouer ailleurs. Donc je crois que c'est important de se rendre compte que c'est pas des acquis et qu'il faut continuer à bien faire attention à ce que ces loisirs, ces divertissements, ces objets d'art et culturels continue à exister et qu'on fasse bien gaffe à les garder.
Vous avez un site internet ?
www.centreimaginaire.com.
Alors, la dernière question, qui est Germaine ?
C'est pas mal. En fait, ça s'appelait le musée itinérant de Germaine, sûrement parce que Germaine, à la base, c'est un imaginaire via le prénom. Et dans la Drôme, là, dans Drôme Hebdo, on avait fait un article et dans l'article, il y avait un appel un peu à qui veut, pourrait être dans ce musée itinérant de Germaine. Et là, j'avais eu un appel. Oui, bonjour, je m'appelle Germaine Cornillon, j'étais là, je suis née à Chabeil. Elle a candidaté, c'est la seule qui a candidaté. Du coup, nous, on a accueilli Germaine avec plaisir, ça a été une très belle rencontre. Et elle fait partie aujourd'hui, son portrait est dans les 12. Donc c'est vraiment le musée itinérant de Germaine, on peut le dire au sens propre.
Jean-Baptiste, merci et bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Répondez-moi, mesdames, vous qui avez du goût, qu'est-il donc de plus beau qu'un bel homme en chemise bien longue, en flanelle ou pilou, ses jambes bien poilues.
Alors ma fille me dit, t'as un 4 pans d'un vieux, moi je l'ai pour soigner. Tous les vieux que j'ai connus, enfin que j'ai connus, qui étaient au club, qui m'ont couru après, ils sont tous canés alors.
On faisait pas de bal, on avait besoin des chauderies. Les gens bien ne font pas des balles.
Pour moi, au contraire, c'est une grâce de pouvoir vieillir et de s'adapter à son âge.
Mais j'attends d'avoir un fauteuil électrique pour descendre en ville et faire regarder les boutiques. Ça me manque, prendre un petit café, une petite glace, regarder les vitrines. Pas pour acheter parce que j'ai ce qu'il faut pour l'éternité. Et je sais pas pour l'éternité si on a besoin de vêtements.